Soweto, centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
La Syrie, installée au carrefour de trois continents, a vu passer sur son sol toutes les grandes civilisations du monde antique et du Moyen-Âge. Les villes de l'époque gréco-romaine en Syrie, sont, comme Palmyre ou Apame, etc., sont plus belles que les villes gréco-romaines de Rome et de Grèce.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Je sais bien qu'on nous va répétant que l'émotion collective est vouée à des éclipses devant le tableau d'interminable barbarie, qu'elle se fatigue de la compassion, qu'elle est bientôt distraite par mille dérivatifs alentour, du côté spécialement de nos querelles intestines. Et pourtant, l'horreur sans fond qui accable la Syrie et son peuple ne peut pas, ne doit pas nous toucher seulement lorsque nous inquiète la vague des réfugiés, lorsque nous angoisse la menace des attentats. Car cette terre nous est proche, bien plus que nous n'en prenons généralement conscience. Jean-Pierre Filiu, professeur d'histoire du Moyen-Orient à l'Institut d'études politiques de Paris, que j'ai convié ce matin, est l'un de ceux qui sont destinés à nous le rappeler sans cesse et par tous les canaux possibles. Il le fait à partir d'une compétence qui se nourrit à la fois de ses travaux savants et de ses multiples expériences sur le terrain, comme on a accoutumé de dire. À la Syrie, Jean-Pierre Filiu porte un amour intense et ravagé. Et parce qu'il en connaît intimement le passé pluriséculaire, il est urgent de l'interroger sur la part d'histoire universelle qui s'est déroulée là-bas de l'autre côté de la Méditerranée. Nous allons nous mettre en quête avec lui des racines lointaines de la douleur contemporaine, mais aussi de quelques échos et rebonds que dans son dernier livre, « Le miroir de Damas », il définit lui-même comme des « concordances de temps », comme, je le cite, « une interrogation ouverte sur des parallèles qui peuvent éclairer notre époque ». Ainsi rejoint-il tout droit notre vocation à ce micro.
La Syrie, installée au carrefour de trois continents, a vu passer sur son sol toutes les grandes civilisations du monde antique et du Moyen-Âge, et même l'époque archaïque. Il n'y a pas un pays dont les vestiges présentent une telle diversité. Allez en Grèce, vous verrez la Grèce. Allez en Égypte, vous verrez l'Égypte. Venez en Syrie, vous verrez l'histoire du monde. Et sans compter que toutes ces époques sont mieux représentées chez nous que dans leur pays d'origine. Exemple, les villes byzantines de Syrie, si longtemps négligées par les milieux savants et même les milieux touristiques d'Europe. Vous savez, nous avons plus de 1000 sites chrétiens en Syrie, avec des églises, des villas, des auberges. Eh bien, tous ces sites-là, qui ont livré, n'est-ce pas, une architecture des plus belles, eh bien, elle est plus belle que l'architecture byzantine de Byzance. Les villes de l'époque gréco-romaine en Syrie, sont, comme Palmyre ou Apame, etc., sont plus belles que les villes gréco-romaines de Rome et de Grèce.
Jean-Pierre Filiu, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation, un témoignage, un propos de Gabriel Saadé, qui est un archéologue syrien, qui était donné sur France Culture le 20 août 2003 dans un documentaire de Jacques Munier. Il m'a paru assez opportun de commencer par un homme qui, certes, est marqué par son amour pour son pays, mais qui est porté par sa profession à le voir sur la très longue durée et qui le saisit dans son immense richesse.
Effectivement, et lui est un archéologue, mais les Syriennes et les Syriens que j'ai pu rencontrer au fil de plus de trois décennies à fréquenter ce pays merveilleux, sont tous, à un titre ou à un autre, pénétrés de cette perspective de temps long. Ils parlent de leur histoire avec une tendresse très forte, un orgueil certain, et d'ailleurs que cette histoire relève de telle ou telle religion, ou relève de la période d'avant les monothéismes, ils en sont fiers, et c'est aussi cette fierté, on va dire, qu'on a envie de partager, qui m'a conduit à approfondir cette histoire syrienne sur le temps long.
Nous allons voir à la fois des échos à quoi vous vous attachez dans votre dernier livre, et en même temps vous protestez contre une instrumentalisation du passé par un certain nombre des bourreaux contemporains qui s'affirment comme dans une lignée, alors que c'est leur différence dans l'horreur qui vous frappe. Je crois que ce double aspect des relations entre hier et aujourd'hui va marquer notre émission ce matin.
Oui, tout à fait. Je voulais redonner la parole aux Syriennes et aux Syriens anonymes qui, eux, revendiquent une histoire dans ce qu'elle a de plus noble et de plus inclusif. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'aussi bien le dictateur Assad à Damas que les barbares de Daesh, le bien mal nommé État islamique, se réclament de figures tout à fait respectées alors qu'ils sont arrivés avant-hier et que leur terreur est très contemporaine. Donc il y a à la fois rendre l'histoire à ce peuple, rendre cette histoire partagée à nous et à eux, et en même temps reprendre des mains des bourreaux contemporains, des bandits contemporains, des détourneurs de sens contemporains, une histoire qu'ils souillent en prétendant la revendiquer.
C'est cette tension, je crois, qui va marquer notre émission ce matin, Jean-Pierre Filliu. Saadé remonte très loin en arrière, c'est légitime, sans s'y attarder trop longtemps. On peut rappeler que c'est une terre qui a été dominée successivement par les Assyriens, Babylone, les Perses achéménides, Alexandre, et ensuite les chrétiens, les Séleucides, et puis les chrétiens jusqu'à Mahomet.
On a des mythes fondateurs. Bon, Alep, comme Damas, prétendent au titre envié de villes les plus continuellement et les plus longtemps habitées de l'humanité, avec 6 à 8 millénaires revendiqués.
C'est vrai ou pas ?
Oui, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance, étant en Syrie aussi comme diplomate à la fin des années 90, c'était l'époque où nous avions plus d'une vingtaine de missions françaises archéologiques dans le pays, donc je passais des jours entiers sur les routes et sur des sites qui allaient de la préhistoire, donc dans la vallée de l'Euphrate, 6000 ans avant notre ère, jusqu'à l'époque romaine, et on avait toutes ces traces. Et puis après, il y a les fables. Les fables, c'est que Alep tiendrait son nom d'Abraham, qui aurait donné le lait de son troupeau, Halib, donc Haleb, Alep, pendant qu'il aurait nomadisé à partir de la Mésopotamie d'origine. Et puis il y a une des histoires encore plus anciennes et plus fabuleuses où on prétend que le tombeau d'Abel, après son meurtre par Caïn, se trouverait soit dans une colline au-dessus de Damas, soit dans sa banlieue.
Le nom de Damas aussi remonterait de façon mythologique loin en arrière, mais les mythes finissent par nourrir des fiertés qui elles-mêmes sont des ressorts de l'histoire.
Et cette fierté, je crois que c'est une des ressources de l'énergie des Syriennes et des Syriens dans cette tragédie abominable qui fait que malgré tout, leur attachement à leur terre reste aussi fort. Et quand ils sont contraints par millions de s'exiler, eh bien, il y a toujours cette volonté de revenir et le moment venu de participer à la reconstruction d'un pays ravagé.
Mais on peut rappeler que, pour prendre la mesure des choses, que s'il y a eu, comme c'est apparemment avéré, environ 500 000 morts déjà du fait de la guerre civile, pour une population d'un peu plus de 20 millions d'habitants, c'est bien cela. Si on reporte ce chiffre à la France, ça voudrait dire qu'il y aurait trois fois plus, c'est-à-dire au moins 1,5 million de morts, sans compter ceux qui ont été obligés de quitter leur pays, qui ont été blessés de toutes sortes de façons.
Le chiffre de 500 000 morts est de plus en plus avancé, même si officiellement l'ONU s'en tient, si j'ose dire, à 310 000, ce qui est déjà effroyable. Mais 500 000 morts prend en compte les dizaines de milliers de disparus et puis surtout tous les endroits où on n'a pas accès, où il y a sûrement des fosses communes qu'on découvre chaque semaine. Quand, à titre personnel, j'étais à Alep pendant l'été 2013, les horreurs auxquelles j'assistais étaient beaucoup plus meurtrières que les bilans qu'on rapportait à l'étranger. Donc effectivement, on a ce nombre de morts qui donne juste le vertige, mais un autre chiffre est peut-être encore pire, la moitié de la population est déplacée de force, soit à l'intérieur du territoire syrien, soit sur les routes de l'exil, et du refuge dans les pays voisins d'abord, puis vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. C'est tout bonnement affolant.
Jean-Pierre Filliu, revenons d'abord loin en arrière, dans les sources de cette fierté que vous évoquez tout à l'heure, sans remonter à la période antérieure à l'ère chrétienne. On peut rappeler que dans l'histoire du christianisme, le chemin de Damas, Saint Paul, la Syrie a un rôle fondamental. C'est en Palestine qu'est né d'abord le christianisme, et c'est en Syrie que s'est organisé le dialogue entre judaïsme et christianisme, au profit du second d'abord.
Et avec la constitution, donc sous l'égide de Saoul, Paul, d'une église qui rompt les liens avec la synagogue, vu qu'elle considère que le sacrement du baptême, eh bien, il suffit à adhérer à cette nouvelle religion et qu'on n'a plus besoin de s'en tenir à la circoncision, aux différents interdits alimentaires qui prévalaient pendant les premières années de cette chrétienté. Donc c'est le chemin de Damas, donc l'illumination au sens mystique de Saoul Paul avant d'arriver dans la capitale syrienne. Et puis c'est à Antioche, qui à l'époque est le siège des autorités romaines pour la province de Syrie, que pour la première fois les chrétiens vont être appelés par ce nom. Et c'est entre Damas et Antioche que cette chrétienté va donc se constituer sous l'égide de l'apôtre des nations qu'est Saint Paul, alors que Pierre demeure l'apôtre du peuple élu.
C'est un lieu aussi où les influences byzantines, avant même l'arrivée de l'islam, sont très marquées. Et il y a le fameux Saint Siméon, qui est très impressionnant pour nous, puisqu'il est resté plus de 30 ans en haut de sa colonne, Saint Siméon Stylite, qui est devenu du coup un personnage majeur dans la mémoire collective. D'ailleurs, on peut observer que son tombeau a été violé par la guerre.
Effectivement, j'ai eu la chance de visiter, quand on le pouvait encore, Calarat Seman, la citadelle de Siméon, qui était un immense complexe monastique et d'accueil des pèlerins qui venaient par milliers du vivant de Siméon. Et ensuite, pour le vénérer. Et non seulement ce site a été la cible de bombardements, soit par l'aviation russe, soit par la chasse syrienne, ça n'a pas pu être démontré, mais en plus, les djihadistes de la branche syrienne d'Al-Qaïda ont fait souche à la faveur des troubles, de la répression et de la guerre civile, et se sont livrés à toute une série de déprédations sur ces sites, même si, heureusement, ça n'a pas atteint les destructions de masse auxquelles Daesh s'est livré à Palmyre et ailleurs.
On va vous faire entendre une chanson que vous connaissez bien, puisque Jean-Pierre Filliu, vous êtes l'auteur des paroles qui a été mis en musique par le groupe marseillais Catherine Vincent en 2013. C'est la première fois que un de mes invités vient avec une chanson dont il est l'auteur. Donc c'était une occasion à saisir. Et elle nous conduit très directement à la tragédie syrienne, puisque votre poème s'appelle « La Dame de Damas ». Et vous nous direz, si vous voulez bien, dans quelles circonstances elle a émergé. Cela concerne directement notre chaîne. Mais écoutons d'abord.
Je suis né sous le Père, j'ai grandi sous le Fils. J'ai dû chanter leur gloire, j'ai enduré leur vice. Jamais de jamais je n'aurais cru voir leur fin. Jamais de jamais je n'aurais cru vivre enfin.
Ce fut une longue nuit, longue de 40 ans. Ce fut l'ère du mensonge, le règne des brigands. J'ai perdu mes amis, j'ai langui mes parents. J'ai ruminé ma peine, j'ai enterré l'instant. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain.
Ce ne sont pas des lions, ce ne sont que des chiens. Aboyeurs enragés, ivres de leur venin. La Syrie leur est due et nous sommes leur serf. Un pays aux Assad et pour nous la misère.
Nous n'étions que de sang quand le mur est tombé. Le mur de cette peur longtemps accumulée. Un cri de nos poitrines en écho a vibré. Nous ne voulons que Dieu, Syrie et liberté. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain.
C'était le mois de mars 2011 et l'année. Nous n'étions que de sang. Sur nous, ils ont tiré. Cette armée sera armée, ne sait quelle pitié. D'un vendredi à l'autre, nous devâmes des milliers.
Il portait un coup fin vers la ville assiégée. Les marchés étaient de paix en arbre d'olivier. Il n'avait que 13 ans, ils l'ont défiguré. Hamza est son prénom de toute éternité. La dame de Damas s'est levée.
On trouve Jean-Pierre Filiou, on trouve le texte de cette chanson dont vous êtes l'auteur au début d'une bande dessinée que vous avez produite avec Cyril Pommès, le dessinateur, et qui s'appelle La Dame de Damas. C'est une histoire qui se passe à Daraya, qui est un quartier de la banlieue sud-ouest de Damas, en Syrie. Dites-nous comment vous êtes devenu compositeur de chansons.
Ben, c'est grâce à France Culture et à la confiance que m'ont accordé les matins de France Culture.
Je les reconnais bien là.
En février 2013, donc à la veille du deuxième anniversaire de la révolution syrienne, voire que maintenant on est à la veille du triste sixième anniversaire. On n'aurait jamais pu penser que ça durerait aussi longtemps. Et c'est Francesca Fossati qui avait lu ce poème quand j'étais moi-même invité de l'émission, et c'est un déserteur de l'armée syrienne qui l'avait accompagné au Oud, aux luttes. Et c'est en entendant cette émission que le groupe marseillais Catherine Vincent, donc un duo avec Catherine et Vincent, ont pris l'initiative de me contacter pour savoir s'ils pouvaient le mettre en musique. Et ça a été réalisé avec une petite opération tout à fait modeste de solidarité avec les réfugiés syriens à la base de la diffusion de cette chanson.
Alors nous allons en venir maintenant, si vous voulez bien, à la période musulmane, avec l'arrivée de Mahomet, qui a reçu le sceau de la prophétie à Bosra, précisément en Syrie. Racontez-nous cela.
Alors en fait, il était tout jeune enfant. Il accompagnait les caravanes de son oncle qu'il avait recueilli à la mort de son père. Et c'était un jeune orphelin. Et donc, il y a toute une tradition islamique, mais qui est corroborée par les sources chrétiennes d'Orient, selon lesquelles le jeune Mohamed aurait été reconnu par un moine de Bosra. Bosra, c'est dans le sud de la Syrie actuelle, mais c'était une des villes les plus prospères de ce qu'on appelait déjà l'Arabie. Il y avait la province d'Arabie et il y avait la province de Syrie qui, elle, commençait entre Bosra et Damas.
Le mot de Syrie remonte en fait à la période grecque.
Tout à fait, c'est Hérodote le premier qui parle de la Syrie et des Syriens, et ce sont les Romains qui en font une province instituée, au début de notre ère. Donc le jeune Mohamed se voit d'abord soumis à un interrogatoire nourri de la part de ce moine qui s'appelle Bayra.
Et qui se méfie des imposteurs.
Évidemment, et qui, une fois l'interrogatoire concluant, lui fait se découvrir l'épaule sur laquelle il voit le sceau de la prophétie, une marque en fait, une tache de naissance qui correspondrait à certaines indications prophétiques. Et alors tout cela va être pris évidemment par les musulmans pour démontrer la continuité entre les deux monothéismes, mais aussi par une certaine apologétique chrétienne pour dire que si ces chrétiens d'Orient schismatiques ont pactisé avec Mahomet, eh bien c'est que l'antéchrist s'est infiltré par leur biais dans le Coran. Et donc on a des deux côtés une reconnaissance, mais tout à fait paradoxale, de l'annonciation de Bosra.
Alors je voudrais que nous en venions à un de ceux qui a disputé l'héritage de Mohamed, c'est-à-dire, parce que vous lui faites un sort dans votre livre, comme une concordance des temps, un Moawiya qui va transmettre son pouvoir après l'avoir assuré à son fils Yazid, dans des conditions qui vous paraissent annoncer, sans tirer l'histoire de façon excessive, annoncer la dynastie Assad, c'est-à-dire le seul cas où, en prétendue république, il y a une transmission du pouvoir du père au fils. On pourrait peut-être faire un rapprochement avec la Corée du Nord, mais en s'arrêtant assez vite.
La Corée du Nord avait beaucoup impressionné Hafez al-Assad père quand il voulait préparer la succession donc par son fils Bachar. On rappelle que Hafez est resté au pouvoir de 1970 à 2000 avant de léguer la Syrie. Et c'est ce qu'on essayait de dire dans la chanson, hein, un pays au Assad. C'est-à-dire que on parle de la Syrie des Assad comme on parle de la Syrie omeyyade. Et cette appropriation par une dynastie, elle était en fait aussi imprévisible du point de vue du dogme du Baas, du socialisme arabe à la fin du XXe siècle et au début d'une autre, que l'établissement d'une dynastie au nom de l'islam à Damas en 660. Pourquoi ? Parce que quand le Mohamed disparaît en 632, il ne laisse aucun testament politique et il y a une organisation pragmatique du pouvoir qui se fait autour des califats, c'est-à-dire littéralement des successeurs. Et ces successeurs, à chaque fois, alors ça se passait bien et généralement moins bien, eh bien on redésignait, il y avait redistribution du pouvoir. Et ce que fait Mouawiya à partir de Damas, c'est qu'il instaure cette dynastie. Et en fait, il prend modèle sur les Byzantins. Et on voit, une fois de plus en Syrie, comment les différents régimes, les différentes religions, les différents systèmes s'inspirent les uns des autres. Et la prière du vendredi, qui est instaurée pour les musulmans par les Omeyyades à Damas, elle prend tout à fait modèle sur le rite de la messe dominicale et de toute la pompe qui l'entourait le dimanche. Et comme on faisait cette prière en l'honneur de l'empereur de Byzance, et bien désormais on va faire la prière du vendredi en l'honneur du calife de Damas. Et donc il y a cette transmission héréditaire et effectivement des instructions qui sont laissées de son vivant par Mouawiya à Yazid.
Voilà les recommandations écrites qu'il laisse, je vais les lire. Sache, ô mon fils, que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour te préparer l'Empire. Et naturellement, vous avez en arrière-fond la comparaison avec Bachar el-Assad, avec Hafez et Bachar. Tu as été reconnu comme mon successeur au califat par tous les musulmans. Et ceci, vous allez me dire si la comparaison peut continuer, 4 hommes seulement ont refusé de prêter le serment. Et voici quelle doit être ta conduite à leur égard. Il faut que le premier soit corrompu, que le second soit isolé et que le troisième soit ménagé. Et il insiste sur le traitement à réserver au quatrième, Hussein, fils d'Ali, c'est-à-dire descendant en fait de la famille du prophète, désormais chef de la lignée de ses descendants. Invite-le Dis, Mouawiya à son fils, invite-le à te reconnaître. S'il refuse, tiens-toi sur tes gardes. Mais s'il consent, accorde-lui tout ce qu'il demandera et traite-le avec bonté. Car nous avons dépossédé sa famille par la violence. Écho, parallèle avec aujourd'hui ?
Oui, on voit que la générosité recommandée, je dirais, à titre de précaution oratoire, ne va pas prévaloir. Hussein sera poursuivi, décapité, sa tête exposée à Damas. Et on voit que Bachar el-Assad, où c'est dehors un peu débonnaire, on lui faisait crédit de beaucoup d'équanimité lors de sa prise du pouvoir en 2000. On disait même que c'était un dirigeant moderniste, parce qu'il avait étudié à Londres, bon, certes l'ophtalmologie, mais peut-être avait-il justement des réflexes différents de son tyran de père. Et bien en fait, il s'est avéré un monstre à sang-froid encore plus rigoureux, encore plus implacable. Effectivement, il a éliminé toute une série de rivaux et son pouvoir est devenu absolu. C'est pourquoi il est folie de croire qu'on pourrait négocier avec lui, ne serait-ce qu'1% de ce pouvoir, parce que dans la logique très darwinienne de ces autocrates, eh bien, il faut tuer pour ne pas être tué. On peut reconnaître une chose à Bachar el-Assad, c'est qu'il a énormément tué dans la crainte panique d'être tué lui-même un jour.
Et là, vous voyez un des comportements de Moawiya et de son fils.
Tout à fait. Et on voit qu'à l'époque, toute opposition est écrasée méthodiquement. Et si j'ose dire, comme aujourd'hui, ces massacres ont une vertu symbolique. C'est-à-dire on ne les cache pas, au contraire. On leur donne la plus grande publicité pour introduire la peur, la terreur dans le cœur de chaque musulman et les dissuader de contester la mise en place d'une dynastie qui pourtant n'a rien d'islamique du point de vue du dogme.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Ces années dont nous parlons, c'est-à-dire 7e, 8e siècle, avec la naissance aussi de l'opposition entre les chiites et les sunnites, les chiites étant du côté de ceux qui ont été tués, de Hussein et de ses descendants, ces années-là marquent déjà une tendance centrifuge d'une bonne partie de la Syrie. Je veux dire que toute l'histoire depuis lors est celle d'un va-et-vient entre les moments où la Syrie est réunifiée et celle où, au contraire, elle est divisée en morceaux. Et cette tension est toujours aussi présente. Alep, Homs, Damas au sud.
Tout à fait. Et on voit aujourd'hui que le drapeau de la révolution arabe, c'est un drapeau à 3 étoiles. Ces 3 étoiles renvoyant à Damas, à Alep et à toute autre ville qui se rallierait à une Syrie unie et indépendante, et que c'est donc cette revendication de l'unité profonde de la Syrie que les forces révolutionnaires, malgré la tragédie actuelle, opposent toujours à un tyran qui, lui, partagerait bien la Syrie pour se contenter de ce qu'il appelle explicitement la Syrie utile, c'est-à-dire la vallée centrale de Damas à Alep et la région côtière.
Le pays de Cham, pourquoi Cham d'ailleurs, est divisé ?
Donc Cham, c'est en arabe à la fois Damas et justement ce pays dont le centre est Damas, mais dont les contours sont toujours incertains. Et on voit bien que les frontières de la Syrie, elles ont beaucoup évolué au cours de l'histoire, mais que le sentiment d'être syrien, qui est un sentiment positif, actif, celui qui s'ancre dans cette histoire longue qu'on évoque depuis le début de l'émission, mais aussi le fait de ne pas être aussi brutal que les habitants de la Mésopotamie, aussi attardé que les Bédouins du désert, aussi chrétien que les Byzantins du Nord, même si la Syrie va demeurer sous les Omeyyades, puis les Abbassides, pendant plus de 2 siècles, un pays à majorité chrétienne, même si les dirigeants en sont musulmans.
Tout cela pose la question d'une identité, un mot à la mode en France, d'une identité syrienne à travers les siècles. Je relève ce propos, vous allez me dire si vous l'approuvez, de l'historien Thierry Bianchis qui dit « Être syrien au Moyen-Âge était un sentiment complexe. Être arabe, tout en étant plus bédouin, être de son quartier, de son village ou de sa ville, de sa petite région, et ne pas être égyptien ni irakien, craindre les Byzantins, mais chercher à commercer avec eux, plaindre les Bédouins, mais apprécier leur laitage et leur langue. Fin de citation.
Oui, c'est une description très éclairante, hein, très percutante.
Pour aujourd'hui encore.
Et pour aujourd'hui encore, moi, j'en donnerai un écho vécu directement dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie pendant l'été 2015. Ou dans des conditions terribles, hein, 40, 45 degrés, en plein désert, eh bien, ces réfugiés qui venaient essentiellement du sud de la Syrie avaient quand même reconstruit, avec les moyens du bord, des éléments du patrimoine de l'ensemble du pays. La colonnade de Palmyre, la citadelle d'Alep, le pont de Deir ez-Zor, justement pour montrer qu'ils n'étaient pas que des déracinés d'une province précise d'un pays et qu'il continuait d'aspirer à cette unité syrienne beaucoup plus inclusive.
Une unité qui est mise à mal d'un siècle à l'autre, à la fois par les divisions intérieures et par l'arrivée des envahisseurs. Il y a les envahisseurs francs avec la croisade, et ensuite il y a l'épouvantable histoire de l'arrivée des Mongols.
Alors il y a les Mongols qui effectivement dévastent Bagdad en 1258, puis la Syrie, et qui vont être arrêtés à côté de la ville contemporaine de Naplouse, et donc repoussés, et qui vont faire souche dans l'Irak voisin, laissant la Syrie sous la domination du Caire. Et puis, un siècle et demi plus tard, il y a de nouveau émanant d'Asie centrale une menace encore plus dévastatrice qui est celle de Tamerlan, hein, Timur le Boiteux, qui lui amène des machines de guerre terribles avec ses éléphants de combat qui vont littéralement conquérir des villes entières en recouvrant les défenses et les fossés par des entassements de cadavres pour leur permettre de pénétrer aussi bien à Alep qu'ailleurs.
Il n'y a pas de merci dans leur comportement.
Il y a offre de merci, et il faut voir que les Mongols, pourtant bien impitoyables, respectaient ces garanties, tandis que Tamerlan, lui, voit systématiquement enfreindre ses promesses avec, on peut le dire, un certain sadisme. Il fait torturer les religieux d'Alep en leur posant des questions de dogme. Et s'ils ne lui répondent pas comme il le souhaite, eh bien, tel membre est amputé, voire le malheureux est achevé. Et puis, à Damas, il va, malgré une reddition qui est négociée par l'intermédiaire de l'immense intellectuel Ibn Khaldoun, eh bien, trois semaines après, ravager la ville et la mettre à feu et à sang, entre autres pour emporter les artisans d'Alep et les artisans de Damas vers Samarcande. Et donc, une partie de la gloire de Samarcande, c'est une gloire syrienne en exil.
Vous évoquez, Jean-Pierre Filliou, vous évoquez Ibn Khaldoun. Dans votre livre, dans votre réflexion, vous braquez l'attention sur cet épisode des relations entre le grand intellectuel et l'envahisseur. Et là encore, ressemblance, écho, rebond avec aujourd'hui. Si vous vouliez bien vous attarder un instant sur cet épisode, je vous en serais reconnaissant.
Oui, effectivement, c'est un peu la part d'ombre d'Ibn Khaldoun. Cela dit, il la revendique dans ses écrits. Il est la source principale.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, Ibn Khaldoun est à Damas, assiégé par Tamerlan. Le sultan du Caire, qu'il avait accompagné, a fui dans des conditions peu reluisante, et les habitants de Damas, les notables de la ville, mandatent Ibn Khaldoun, et d'ailleurs, autre concordance, il va descendre les murailles de Damas par une corde et dans un panier, comme la tradition veut que Saint Paul l'ait fait 14 siècles plus tôt, et il va être reçu sous la tente de Tamerlan, mais au lieu de remplir son mandat, en fait, il va tomber fasciné par l'envahisseur et il va aller très loin parce que Tamerlan, qui ne sait pas encore de quel côté le porteront ses hordes, qui pourrait être intéressé par l'Afrique du Nord, lui demande une description du Maghreb que Ibn Khaldoun va faire très volontiers. Mais moi, ce qui me frappe le plus, et sans du tout mettre les diplomates actuels au niveau de ce monument intellectuel qu'était Ibn Khaldoun, c'est la fascination. C'est qu'au fond, le tyran, parce qu'il est un tyran, parce qu'il est impitoyable, parce qu'il fait couler le sang sans ciller, eh bien, ces hommes qui sont censés négocier la paix, ils tombent sous son empire, sous son charme.
Vous vous rappelez que Ibn Khaldoun a pensé à un moment donné qu'il suspendrait le glaive de Tamerlan, qu'il obtiendrait que les massacres n'aient pas lieu. En fait, il a été absolument trompé. Après son départ vers l'Égypte, ces massacres ont été épouvantables.
Et je fais un parallèle avec les grands diplomates. On peut citer Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, mandaté auprès de Bachar el-Assad en 2012. Et quelles que soient les promesses qu'il obtient du despote, eh bien, on a les massacres chimiques en août 2013. D'autres grands émissaires qui vont ainsi chez le tyran qui... Faut bien le reconnaître, hein, sont impressionnés par la personnalité, sans doute par cette force absolument incontrôlée. Et dès qu'ils sont partis, eh bien, on se rend compte que aucun des engagements n'a été tenu. Et ça n'empêche pas la noria des émissaires de continuer de revenir à Damas en faisant semblant de croire qu'en parlant au despote, on peut, comme vous l'avez dit, suspendre son glaive.
D'ailleurs, c'est Ibn Khaldoun lui-même qui écrit, après être parti, « Ah, l'horreur était extrême ».
Oui, et on voit que l'horreur extrême, d'ailleurs, aujourd'hui, ne peut, dans la longue histoire de la Syrie, ne se comparer qu'à ce que ce pays a vécu à l'époque de Tamerlan. C'est pour dire qu'on ne parle pas d'une contre-révolution, on ne parle pas d'une restauration, on ne parle évidemment pas de stabilité ou de statu quo, mais on parle du retour aux heures les plus sombres de la Syrie, il y a plus de 6 siècles.
Pour alléger un peu notre conversation, Jean-Pierre Filiu, à ce moment de son déroulement, je voudrais vous faire entendre le témoignage d'une écrivaine syrienne que vous connaissez, Colette Khoury, qui a fait plusieurs romans remarqués, et qui, au micro de Jacques Munier en août 2003, explique pourquoi Damas est une ville exquise. Contraste.
On dit que le mot Damas... Ça vient dans l'ancien temps. Damas était une ville pleine de fleurs et de parfums. Et on l'avait appelée Dumusk. Dumusk, c'est la ville qui était doublement parfumée. Dou, c'est deux, et musk, c'est le parfum. C'était Dumusk et c'est devenu Dumusk, Dumusk, Damas. Alors ensuite, ça a été lié au tissu, ça a été lié aux belles femmes aussi. Et nous avons une fleur, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, en arabe ça s'appelle fil. Cette petite fleur qui est blanche, elle a un parfum superbe, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Mais la ville de Damas, c'est le jasmin surtout. Et puis la rose de Damas. Parce que le jasmin, c'est le parfum. Le yasmine. En arabe, c'est le yasmine. D'ailleurs, il y a beaucoup de filles qui s'appellent yasmine. C'est un nom de fille maintenant. Moi, j'aime surtout à Damas ce contraste qui est dans la ville. Vous pouvez aller trouver le très ancien, les coutumes anciennes, et vous trouvez Damas, la moderne ville. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans une ancienne maison avec le jardin en dedans, vous savez, les jardins et le bassin qui sont dedans, dans la maison, et les femmes qui dansent l'arabe. Et d'un seul coup, vous allez dans un hôtel très moderne et vous voyez danser les nouvelles danses, toutes les nouvelles danses. Vous voyez des femmes habillées comme à l'ancien et vous voyez des filles avec la mini-jupe qui va jusqu'à très haut. Il y a le contraste à Damas. J'aime la continuité de vie dans Damas. Vous sentez que l'histoire continue à vivre.
L'histoire continue à vivre, Jean-Pierre Filiu, à Damas.
Oui, c'est très frappant, de même qu'est frappant la fascination qu'exerce cette oasis de Damas, de Cham, envers tous les voyageurs qui la découvrent au fil des siècles. Et les Ottomans, donc le sultan Selim, qui s'empare de la ville en 1516, de façon tout à fait rare, va demeurer de longs mois dans la ville et il va superviser lui-même l'édification d'une mosquée qu'on peut heureusement toujours voir aujourd'hui, sur la tombe d'un mystique andalou Ibn Arabi, qui était venu trois siècles plus tôt. Et donc, c'est à partir de Damas qu'il va organiser la route du pèlerinage vers la Mecque et Médine. Donc, on a Damas à la fois comme capitale symbolique et comme lieu d'où part ce grand rite annuel du pèlerinage. Et on a Alep, au nord...
La frondeuse.
La frondeuse, parce que c'est la ville du commerce, c'est moins la ville de l'autorité. Hein, on peut, bon, sans pousser trop loin ce parallèle, le maintenir jusqu'à aujourd'hui, où on voit Assad ancré sur Damas, même s'il a toujours une des poches de rébellion importantes dans sa banlieue, et en revanche Alep qui lui a résisté jusqu'à sombrer sous les assauts de la Russie, de l'Iran, de leurs milices affidées en décembre dernier. Et pendant tout le XVIIIe siècle, on a une série de révoltes d'Alep. Alors on est trois jours après la journée de la femme, il faut se rappeler que des Syriennes ont pu monter sur le minaret d'Alep, défier le gouverneur ottoman, en être châtié, mais en même temps participer pleinement à cette mobilisation contre le despote. C'est sans doute à Alep.
Oui, là nous sommes en 1751, n'est-ce pas ? C'est la première d'une série d'émeutes.
De toute une série d'émeutes.
Et être châtié, peut-être moins brutalement que dans notre actualité, mais néanmoins très 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 violemment.
Très violemment, et on a déjà un élément d'espace qui renvoie à notre actualité, c'est-à-dire que vous avez une citadelle qui domine Alep et qui reste toujours tenue par le pouvoir, donc en l'espèce ottoman,
et aujourd'hui
Assad, et les opérations de reconquête, de pacification, hein, qui sont toujours les mêmes euphémismes pour parler de massacre et d'expulsion.
Ça, c'est Orwell, c'est Orwell qui parlait de ces euphémisations.
Voilà. Hein. Et on a toujours une action conjuguée entre la citadelle qui surplombe, qui est un peu le symbole de ce pouvoir qui domine, mais qui n'a de rapport que de violence avec la population en contrebas, et puis les troupes qui, elles, entourent la ville et qui, peu à peu, vont la reconquérir à partir des faubourgs. Et ce type d'opération qu'on voit plusieurs fois au cours du XVIIIe siècle, eh bien, c'est exactement ce qui a été à l'œuvre au cours des dernières semaines de 2016.
Quel est le rôle de la Syrie dans le moment de ce qu'on a appelé la renaissance musulmane au XIXe siècle?
En fait, c'est la renaissance arabe, c'est la Nahda. Et cette Nahda, en Syrie, elle associe très étroitement des chrétiens et des musulmans. Et elle a en fait une volonté de réhabiliter l'histoire arabe par rapport aux Ottomans, et elle oppose deux types de revendications. Une revendication de type nationaliste, aux Européens. Nous sommes des Arabes, avec une longue histoire, une langue, une terre. Et une revendication de type islamiste à l'encontre des Ottomans, qui sont décrits comme des Turcs, qui ont donc, à la différence des Arabes, amené l'islam dans la décadence. Et on a une personnalité d'Alep, à la fin du XIXe siècle, Abderrahman Kawakibi, qu'on appelle le père des pauvres, parce qu'il était à la fois leur relais auprès de l'administration ottomane. Il tenait un bureau des plaintes où il pouvait mettre en forme leurs revendications, mais c'était aussi un tenant du libéralisme. Il a adapté, en fait, alors que lui-même est de formation religieuse, un traité libéral italien, traduit aujourd'hui sous le titre de l'autoritarisme.
Il a vécu, il a fleuri, comme on dit, dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Et il est mort en exil au Caire, probablement empoisonné par des agents du sultan ottoman qu'il avait poursuivi jusque dans son refuge égyptien.
Déjà le poison politique, mais cela nous amènerait du côté de la Corée vers d'autres rapprochements. Et nous restons, si vous voulez bien, ce matin, Jean-Pierre Filiu, nous restons en Syrie. C'est le temps aussi où un certain nombre de voyageurs européens viennent visiter la Syrie et la considèrent avec souvent de la fascination. Je pense par exemple au voyage en Orient de Lamartine.
Lamartine est sans conteste de tous ces voyageurs, écrivains, le plus impressionné par la Syrie. Et il va d'ailleurs en tirer une forme de doctrine, lui qui aspire aux plus hautes fonctions en France, en disant que c'est en Syrie que ce qu'on appelle à l'époque la question d'Orient doit être définie. Et il considère que tous ceux qui voient dans les affrontements, dans cette partie du monde, des affrontements religieux, eh bien, ils ont tort.
Et là, vous êtes d'accord avec Lamartine. Lamartine, Filiu, même combat.
Et puis surtout, Lamartine qui permet de dégonfler les baudruches de tant de clichés qu'on nous rebat aujourd'hui. Il dit lui-même qu'il n'a jamais vu un objet de culte déclencher un conflit. Il voit des populations qui peuvent être aux prises de manière parfois très dure, mais soit sous l'effet d'ingérence étrangère. Par exemple, les Français misant sur les Maronites et les Britanniques sur les Druzes, qui sont une famille dissidente de l'islam. Donc on voit bien qu'entre Britanniques et Druzes, il n'y a aucune affinité religieuse. On est purement dans des conflits de population. Et Lamartine essaie de promouvoir une vision syrienne qui dépasserait ces considérations confessionnelles à l'heure même où, sous la Restauration, la monarchie de Juillet, et après la République et le Second Empire, beaucoup invoquent la supposée mission historique de protection des chrétiens d'Orient par la fille aînée de l'Église que serait la France.
Napoléon III, d'ailleurs, envoie des troupes pour cela.
Il envoie des troupes, mais sous la pression d'une campagne de presse qui n'est pas sans rappeler certains débordements contemporains. On parle dans le Moniteur d'un complot musulman dont la tête serait à la Mecque ou ailleurs et qui viserait à l'extermination des chrétiens. Mais ce qui est clair, c'est que pendant que tous ces publicistes s'égosillent, la personne qui va sauver les chrétiens de Damas, c'est un émir algérien, c'est Abdelkader, que la France a exilé après sa défaite en Algérie en 1847.
Ça, c'est souvent oublié, c'est toute une histoire qui mérite tout à fait d'être exhumée.
Et non seulement Abdelkader sauve le consul de France, il sauve le consul de Grèce, il sauve de très nombreux religieux européens, mais il va prendre sur lui d'aller dans la fournaise de Damas en pleine émeute pour ramener dans son domicile, puis dans la citadelle, des milliers de chrétiens qui seront ainsi sauvés du massacre. Et on peut constater que l'héroïsme d'un homme qui était un combattant algérien, qui était aussi un mystique musulman, vu qu'il était venu à Damas justement pour s'imprégner des enseignements d'Ibn Arabi que j'évoquais plus tôt, ce mystique andalou célébré par le sultan Selim, eh bien, il va, comme combattant et comme mystique, considérer qu'il est de sa responsabilité de sauver les chrétiens d'Orient, et il agira là où les puissances européennes ne feront rien malgré toutes leurs déclarations d'intention. Et je vois là aussi un parallèle avec aujourd'hui toutes ces personnes qui s'égosillent sur les chrétiens alors qu'elles n'ont pas contribué de la moindre façon à alléger leur souffrance, souffrance qui, j'y insiste, en Syrie, sont aussi importantes, mais pas plus importantes que celles du reste du peuple syrien.
Ce 19e siècle, comme le 20e, en fait, est marqué par des contrastes entre ces moments de spasmodiques d'horreur et de barbarie, et aussi ceux où le calme étant revenu pour un temps, la fascination reprend pleinement sa place. Vous parliez de Lamartine. Je ne me prive pas du plaisir de lire ce qu'il écrit au moment de son voyage en avril 1933. C'est seulement 15 ans plus tard qu'il sera ministre des Affaires étrangères de la Seconde République, mais il vient d'apprendre son élection. Il apprend sur place son élection à la Chambre des députés. Il est possible que cela contribue à éclairer son propos, mais je ne pense pas. Il est subjugué de son séjour à Damas et il écrit ceci. « Aucun lieu de la terre ne rappelle mieux l'Éden, rien que cela. La vaste et féconde plaine, les sept rameaux du fleuve bleu qui l'arrosent, l'encadrement majestueux des montagnes, les lacs éblouissants qui réfléchissent le ciel sur la terre, la situation géographique entre les deux mers, la perfection du climat, Tout indique au moins que Damas a été une des premières villes bâties par les enfants des hommes. C'est pas mal de faire entendre cette voix aujourd'hui, spécifiquement Jean-Pierre Filieu.
Tout à fait, et c'est pourquoi, au-delà du commentaire d'une actualité scandaleuse, je veux, par mes travaux, par ce livre, rendre aussi un message d'espoir. Les Syriennes et les Syriens sont convaincus que, hier comme aujourd'hui, si on les laisse vivre en paix et en liberté, ils peuvent reconstruire ce pays extraordinaire. Et j'ai vu sur place à Alep, après un bombardement d'un monument, une mosquée du XIIIe siècle, toutes les pierres du minaret avaient été méticuleusement préservées pour pouvoir réédifier le minaret le moment venu. Et j'y ai trouvé un symbole de cette volonté qui transcende les siècles, hein, qu'on a ce type de phénomène à de très nombreuses reprises, de rebâtir sur les ruines quelle qu'ait été l'ampleur de la catastrophe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Tamerlan, c'est la pire catastrophe que la Syrie ait jamais connue.
Vous décrivez les malheurs d'ailleurs de la mosquée d'Alep quand vous y étiez allé. Vous pensez qu'on pourra aussi la rebâtir ?
Les pierres du minaret de la mosquée d'Alep sont toujours là. Des révolutionnaires citoyens, membres de la société civile, ont préservé sous des murs de parpaings de fortune la plupart des sculptures de l'enceinte de ce monument, dont il faut quand même rappeler qu'il est classé au patrimoine mondial. Et que de même qu'on n'a pas beaucoup sauvé les femmes et les hommes malgré les déclarations d'intention, eh bien, on n'a pas beaucoup aidé ceux qui, avec des moyens rudimentaires, essayaient de sauver notre patrimoine commun de tous ces barbares.
Nous allons, Jean-Pierre Filieu, passer rapidement sur la période française, aussi intéressante qu'elle soit. Nous y avions consacré, naguère, une émission spécifique qui est accessible, bien sûr, sur la toile dans notre système de podcast. C'est un moment où le principe du mandat aboutit à un effort de division pour régner de la part de Gouraud, de la part d'Henri de Jouvenel, le mari de Colette, vous savez, qui a été haut commissaire aussi en Syrie. C'est un souvenir qui n'est pas très positif aujourd'hui dans ce pays.
Et c'est pourquoi je reviens au drapeau révolutionnaire actuel avec les trois étoiles. Il se trouve que ce drapeau, c'était déjà celui que les nationalistes syriens opposaient au mandat français, qui à un moment a quand même divisé la Syrie en 5 États différents. Et donc cette volonté d'unité opposée aux colonisateurs, et j'y vois une continuité dans cette revendication d'unité opposée aux tyrans, de même que je vois une continuité dans la lutte pour l'autodétermination du peuple syrien, avec aujourd'hui des forces d'Assad qui se comportent en armée d'occupation et qui d'ailleurs font appel à des troupes étrangères. Il faut savoir que dans la bataille d'Alep, la majorité des soldats engagés du côté gouvernemental n'étaient pas syriens. Ils étaient libanais, irakiens, iraniens, afghans et pakistanais.
Il y a eu un moment presque de grâce où la Syrie a pu rêver d'introduire les principes d'une démocratie dans ce pays. C'est entre le temps où la République unie de l'Égypte et de la Syrie, celle qu'avait voulu Nasser, a disparu, et avant le coup d'État, ça dure à peu près un an, avant le coup d'État du Parti Baas, qui après un temps va amener au pouvoir Hafez el-Assad. Et il y a un président qui s'exprime de la sorte, interviewé par Gilbert Larriaga dans la grande émission de télévision 5 colonnes à la une, vous savez, l'émission de Lazareff, des groupes et Dumayet, le 6 octobre 1961. Écoutons-le.
La Syrie aime les libertés publiques. Les Syriens ne peuvent vivre sans liberté publique. Or, une des premières raisons de ce mouvement béni, c'est que ces libertés publiques n'existaient presque pas en Syrie. Une autre raison consiste dans les actes que les services secrets faisaient dans notre pays. À tel point que le frère n'osait pas dire son point de vue devant son frère, le père devant son fils ou le fils devant son père.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de prisonniers politiques pendant toute cette période ?
Je crois que le nombre des prisonniers politiques dépassait les milliers.
Quel est le but actuel de votre gouvernement?
Vous
proposez quoi?
Notre gouvernement se propose avant tout de permettre au pays d'avoir une constitution démocratique, de remettre les pouvoirs entre les mains des autorités émanant à l'issue d'élections libres, démocratiques.
Et dans combien de temps à peu près d'après vous?
Nous avons mis comme terme à notre mission 4 mois.
Cet optimisme du président Kousbari a évidemment été contredit par la suite. Il n'empêche qu'il nous aide à considérer, Jean-Pierre Filiu, qu'il n'y a pas de fatalité dictatoriale dans le pays de Syrie.
Bien au contraire, justement cette diversité qu'on a évoquée sous toutes les périodes de la Syrie, elle nourrit une volonté de pluralisme et concrètement à l'époque moderne, une aspiration à la démocratie que ce président évoquait très bien. Il a été trahi par des comploteurs qui, eux, voulaient établir un pouvoir absolu. Et c'est très frappant que quand il prend le pouvoir, donc en 1961, pour une courte période avant qu'on arrive au Baas et à la famille Assad...
Un civil, un universitaire.
Eh bien, il rétablit ce drapeau à 3 étoiles, alors qu'aujourd'hui, le Baas a pris le drapeau de cette République arabe unie où il y a 2 étoiles qui correspondent à la Syrie et à l'Égypte. Donc, d'une certaine façon, Assad a un drapeau qui est anti-syrien, qui est un drapeau qui nie l'indépendance de la Syrie. Donc moi, je vois une très forte continuité entre cette négation au nom de projets de domination étrangère, au nom d'une Syrie des Assad ou au nom de l'appropriation par un régime avec une idéologie qu'on applique plus ou moins, mais dont il est certain que les services de renseignement qui étaient évoqués dans cet enregistrement sont la clé, sont le bras armé d'une oppression très intrusive. Et puis de l'autre côté, une population syrienne qui, elle, forte de son histoire, revendique encore et encore, avec une constance non seulement digne de respect, mais qui devrait être digne de beaucoup plus de solidarité, les libertés fondamentales qui sont au cœur aujourd'hui de la question syrienne.
Merci Jean-Pierre Filiu pour avoir éclairé la longue durée de l'histoire de la Syrie aujourd'hui martyrisée, mais dont vous nous dites que son avenir n'est pas forcément aussi sombre qu'on pourrait le craindre.
Tout à fait.
J'ai fait fond pour préparer cette émission sur plusieurs de vos livres, notamment le plus récent que j'ai cité chemin faisant, Le miroir de Damas, avec un sous-titre Syrie, notre histoire, qui est publié à La Découverte. Je parlais de votre séjour à Alep. Je vous écris d'Alep, au cœur de la Syrie en révolution, aux éditions de Noël. Vous êtes resté combien de temps à Alep ?
Une partie de l'été 2013, dans des conditions délicates, vu qu'on avait... à quelques centaines de mètres de ma planque et sans que j'en sois à l'époque conscient, nos 4 compatriotes qui étaient otages de Daesh, Didier François, Nicolas Hénin et leur compagnon d'infortune.
Nous avons entendu votre chanson, vous avez fait, je le disais en passant, plusieurs bandes dessinées, La Dame de Damas avec Cyril Pommès, d'autres aussi, Le Printemps des Arabes. Vous avez également donné en bande dessinée une histoire des relations entre les États-Unis et le Proche-Orient.
Avec David Bay, donc en 3 tomes et sous le titre Les meilleurs ennemis. Cette histoire se clôt d'ailleurs par les bombardements chimiques de Damas en août 2013.
Et avec le refus d'Obama d'intervenir en dépit de la pression française.
Et surtout de l'engagement public qu'il avait pris à faire respecter, y compris par la force, la ligne rouge qu'aurait représenté cette utilisation d'armes proscrites par le régime Assad.
Merci Jean-Pierre Filiu. Mes chers auditeurs, vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, avec toutes les œuvres de mon invité et d'autres, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. Ce n'est pas difficile, je le signale aux plus réticents d'entre vous, à ceux d'entre vous qui sont les plus réticents par rapport aux modernités de la technique. Samedi prochain, nous retrouverons des exilés, puisque nous parlons des Huguenots sous Louis XIV, le refuge, douleur de l'exil, avec Naïma Germani. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Guillaume Cotte, réalisée par Luc-Jean Reynaud. Avec Dofar Guéry à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'INA qui nous sont toujours si précieuses. Et dans quelques instants, je vais passer le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.